Morgane Guédiguian, Fanny Ruet, Tanguy Passureau, Tom Villa, Daniel Morin
et bonjour Morgane.
Invité Marc Dugain.
Ah oui.
On a entendu. Hein.
Il était énorme ton bonjour Morgane.
Oui.
T'as payé pour être devant mix comme ça.
Non, mais je voulais que Morgane comprenne. Que
nous allons, on l'a compris. Nous allons évoquer c'était avec gênant. Marc Dugain son nouvel ouvrage qui s'appelle Compter les moutons, mais compter comme raconter et pas spécialement comme les compter pour s'endormir. Des fois qu'on se pose la question, on évoquera ce jeu de mots et surtout ce point de vue différent. Il vit en Bretagne. C'est d'ailleurs là où nous le retrouverons parce que.
Quelle chance. On va en Bretagne.
Malheureusement pour lui. Mais il va nous rassurer sur sa santé, tout va bien. Il a attrapé ce truc là qui circule en ce moment. Là, j'ai oublié le nom du truc qui circule là. Il y a un truc qui circule. Et donc, au dernier moment, on s'est dit, mais on va quand même pas se passer à côté de la chance d'avoir Marc Dugain et de faire cette émission.
Surtout qu'il y a le téléphone, ce serait dommage.
Surtout qu'il y a un très bon livre dont on va parler avec lui. Donc, le blind test. Il y a un monde fou aujourd'hui pour le blind test. Attends, votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole pour donner la réponse.
Leïla.
Oui.
Daniel.
Nino Ferrer.
Oui.
Comment t'as fait une grosse Leïla, là.
Non,
t'as fait une grosse Leïla.
Démarrage en pause. Enfin, il n'y avait personne sur
le coup. Si, moi.
Si, il y avait
Si, si.
Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici?
Ouais.
C'est les animaux, ok. Chez Omax.
Attention, qui chante ça?
Daniel.
Leïla.
Daniel.
Brassens.
Oui. J'ai même balancé la réponse du suivant.
Ah,
c'est pas ouais, ouais,
vous avez pas écouté, okay. Vous avez pas écouté. Qui chante ça?
Tom.
Daniel. Tom.
Elton John.
Oui. Ah. Vous avez trouvé le thème ou pas?
Ouais, les animaux.
Joli. On a eu un gorille, on a eu un chien, on a un crocodile.
Voilà. Elle est super ta drogue.
Qui chante ça?
Tanguy.
Tanguy.
Ah ouais.
Oh,
oui.
Oh,
oui.
Est-ce qu'on a la truite de Schubert?
Je te jure, si j'avais pensé, j'aurais fait.
Fais gaffe parce qu'on peut encore avoir la chatte à la voisine. Non, attention.
Oh. Je suis choqué.
Ouais, tu fais ça.
Bien joué, Leïla.
Tu l'as fait pendant le confinement.
Ah, oui.
Ça a été mon fou rire.
Parce que je ne risquais rien. J'étais enfermé à la maison.
Oui. Et la voisine était à l'hôpital.
Laurence Bloch. Je ne peux pas.
Elle écoute pas, là.
Qui chante ça?
Morgan. Lions, Irons, Desire. Bob Marley.
Bah, il y a Lion, quoi. Bon, c'est Bob Marley.
Non, le titre, il est piégeux.
Iron,
Lion, Zion.
Zion.
C'est la
que je suis le matin.
La fille en fin de soirée qui dit Lion, Zion.
Tout ça pour évoquer Compter les moutons. Iron, Lion, Zion, mouton tout à l'heure. Avec Marc Dugain. Attention, quel animal est chanté là? Ou qui chante d'ailleurs?
Horses.
Daniel, Wild Horses.
Ouais, mais j'avais pas le nom du groupe.
Stones.
Oui, Stones, du prénom Rolling.
Ouais, sur Rolling. Bah, demi-point du coup. Voilà.
Non, c'est pas
vrai. Wild Horses. Qu'est-ce que c'est? Les Rolling Stones qui sont en tournée quand même.
60 ans de carrière.
À Lyon en juillet.
T'es pas
23,
aussi.
Je crois.
Mais ils manquent pas un batteur
aussi.
Non, s'ils tiennent jusque-là, ouais.
Quoi?
Il est à la batterie.
C'est un nouveau batteur, mais il était déjà prévu avant que Charlie Watts ne meure. Charlie Watts avait déjà choisi le batteur qu'il remplaçait sur la tournée parce qu'il savait qu'il ne ferait pas la tournée.
Ah
ouais. Alors là, non. Alors
oui,
c'est bon.
Pas à ce point-là, ouais. Hélas, le pauvre.
Mais vous respectez rien.
Oh, ça va.
La chatte à la voisine.
Deux points pour.
Voisin,
hein. Tu connaissais ma voisine. Deux points pour Daniel, un pour Leïla, un pour Morgane, un pour Tanguy, un pour Tom. Eh, hey, Fanny!
Mais écoute-moi!
Oh, elle se réserve. Là.
C'est maintenant, hein?
Bah, j'attends.
Money time. C'est le super banco.
Ah, Daniel!
Morgane.
Non, Daniel.
Animals.
The House of the Rising Sun.
Et pas la truite.
Non, je l'ai pas. Ni la chatte. L'une a mangé l'autre, je sais pas dans quel sens ça s'est passé.
Suspense.
Victoire de Daniel Morin. Et merci d'accueillir Marc Dugain.
Allô.
La bande originale avec Nagui.
Bonjour Marc, soyez le bienvenu dans cette bande originale.
Bonjour.
Vous allez bien, c'est la première question qu'on doit vous poser évidemment.
Ça pourrait aller mieux, mais ça pourrait être pire. Donc tout va bien. Vous, heureusement qu'on est vacciné quand même. Hein,
j'ai
parce
dit
que j'imagine
oui.
Ce que ça devait être quand on n'était pas vacciné.
C'est-à-dire que déjà vacciné, ouais. ça va pas top. Donc c'est vrai que ça pourrait être encore plus conséquent, ouais, virulent, sans le vaccin. Marc Duguin, est-ce que vous êtes dans la maison que vous décrivez dans le livre Compter les moutons, c'est-à-dire en haut de la falaise avec vue mer?
Oui, je suis dans. Mais je suis pas côté vue mer en fait là. Je suis
côté jardin qui monte.
Côté jardin qui monte, exactement.
C'est ça, hein, c'est ce que vous décrivez, ouais. Vous dites la petite fenêtre, c'est-à-dire que l'auteur a choisi un bureau où lui ne voit pas la mer, mais il a le jardin qui monte derrière avec...
Oui, parce que la mer, ça distrait, en fait.
C'est ouais. Ce que vous écrivez, oui.
Ça, il y a un côté fascinant et absorbant, et après, en fait, on écrit... on écrit n'importe quoi, en fait.
Et comment vont les sœurs Chocottes? Parce que le bulletin de santé, ça vaut pour les sœurs Chocottes aussi, hein.
Elles vont bien, elles sont devant la fenêtre. Elles sont en train de bouter. Elles sont aussi sauvages.
Les sœurs Chocottes étant deux brebis. Non, deux brebis qui viennent d'une île d'Écosse, hein, c'est ça?
Oui, c'est des moutons de Soet, en fait, que j'ai. C'est des moutons sauvages qui sont plus près du mouflon que du mouton. Alors, c'est très difficile de les approcher. Mais,
enfin, il y en a une qui a accepté, l'autre non.
Ce qui est, oui, alors il y en a une qui est très maligne et qui socialise parce que elle sait qu'elle peut en tirer des avantages.
Des croquettes, enfin, de quoi manger.
Des croquettes. Des croquettes.
Des croquettes.
Des
granules.
Nagui
Fermier.
Nagui Fermier chez Monsanto.
Non, dans le cas, c'est pas des croquettes.
Non,
c'est des sortes de granules.
C'est quoi, oui, c'est ça.
Complément alimentaire.
C'est quoi? Vous leur donnez quoi?
En fait, en hiver, comme il y a quasiment plus d'herbe, on leur donne des granulés. Le problème, c'est que les producteurs de granulés incorporent des substances addictives.
C'est ça. C'est-à-dire comme
et donc,
dans
ça
tout.
Ça les rend cinglés. Donc en fait, je leur en donne très peu.
Ah ouais.
Parce que sinon, après, elles passent leur temps à bêler et puis.
Mais ça se fume pas, vous savez. C'est à croquer. Hein, faut arrêter de leur donner souvent.
Non. Mais pour l'anecdote, et c'est ce que vous racontez dans le livre, de la même manière que nos nourritures industrielles, tout ce qui est finalement empaqueté, fabriqué, transformé et chargé en éléments qui vont nous rendre dépendants de cette nourriture pour nous pousser à la consommation.
On serait manipulé.
Comme les moutons.
Mais tout est fait pour nous. Aujourd'hui, tout est fait pour nous rendre addictifs.
Hein.
Ouais. Quand vous voyez tout le numérique, tout le digital est fondé autour des addictions.
Oh, le complotiste.
Qui est en fait un cerveau archaïque qui est très très lié aux dépendances. Et je pense que chez les animaux, chez nous, c'est le même fonctionnement en fait.
Mais sommes-nous des animaux?
J'aimerais bien.
Non mais si on prend le recul par rapport au règne animal, par rapport
en tout cas, on
à
pas
la
les,
vie,
on se dit être les plus malins, mais vraisemblablement quand on lit le livre de Marc Duguin, on comprend qu'on est quand même pas les plus futés.
Mais c'est pire que tout. C'est-à-dire
on est les seuls à travailler.
Non seulement, non seulement on est les prédateurs de toute la race animale, mais on est notre propre prédateur. Ça fait partie des idées que vous évoquez dans ce livre qui est passionnant, qui est intelligent, qui est drôle, qui peut-être d'ailleurs. Alors vous n'avez aucun mérite, hein, puisque je rappelle que c'est pas vous qui avez eu l'idée. Hein, c'est une collection et on en parlera tout à l'heure avec Clara Dupont-Mono. Non, il n'a aucun mérite. Il a juste écrit le livre, mais il a pas eu l'idée.
Et ce qu'on n'a pas dit, c'est
Marc.
Que le livre qui a la parole, ce sont les sœurs Chocottes. Ce
c'est
sont
ça.
Les.
Non,
ce
c'est
sont
une des deux.
C'est une des brebis, ouais. En fait, qui
non,
prend la parole.
Sur l'idée, en fait, quand Clara m'a parlé de ce projet...
Clara Dupont-Mono.
Qui sera tout
Clara
à l'heure avec
Dupont-Mono,
nous.
Ouais. Qui est la directrice de collection chez la thèse de
Bestial.
En fait, l'idée, c'était plus au départ les écrivains et leurs animaux. Je lui ai dit, bon, ça, c'est quand même... c'est peut-être un peu plus classique et ça serait peut-être un peu plus intéressant qu'on voit les écrivains à travers le regard de leurs animaux.
Donc c'est vous qui avez eu l'idée de l'autoportrait par le prisme de l'animal, c'est ça?
Voilà, c'est, j'ai eu l'idée, j'en cherche pas la moindre gloire. C'est juste que, en discutant, je lui ai dit, ça serait plus intéressant d'avoir ce regard critique sur soi-même à travers les animaux, en fait.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la collection, il va y avoir des livres écrits par Valérie Bonneton, Wendy Delorme, Ovidie ou Pauline Armange. Ça ne sera donc pas des autoportraits vus par des animaux. Il y aura le thème de l'animal, de la bête, mais pas forcément avec cette même mécanique, c'est ça?
Oui, moi c'était pour mon livre. Moi je me voyais pas en fait parler de mes animaux directement, dire voilà mon chat le matin, je fais ça, etc. c'était plus essayer de justement de voir l'être humain avec tout ce qu'il a d'un peu pesant dans le regard des animaux. À un moment où on est quand même, c'est quand même un moment clé de notre relation à la nature et notre relation au monde animal qui se détériore à une vitesse impressionnante, donc c'était ça l'idée de départ en fait.
Et puis le livre est construit, alors vraiment il y a toute une narration et beaucoup de révélations très intimes sur votre vie, sur votre parcours, vos angoisses, sur les malheurs aussi que vous avez traversés et les bonheurs heureusement. Mais en préambule, il y a toute une sorte de préface, je sais pas comment vous la définiriez quand même, où vous resituez un tout petit peu le contexte. C'est surtout notre rapport à la vie, notre rapport au monde dans lequel on vit, et c'est presque un discours politique par les temps qui courent.
Ben parce que c'est, si vous voulez, je ne sais pas lesquels d'entre vous ont lu le dernier rapport du GIEC là, mais il y a quand même de quoi quoi s'inquiéter là.
Oui, sauf que quand vous l'avez écrit, vous n'y avait pas le rapport du GIEC, mais vous étiez déjà alarmiste sur la manière dont on traite notre planète, la manière dont on se traite nous-mêmes. Il n'y avait pas la guerre non plus quand vous l'avez écrit, et pourtant on sent cette quand vous dites que l'homme est son propre prédateur et qu'il suffit de rien pour devenir totalement fou, vous êtes presque médium dans cette histoire, malheureusement.
Si vous ajoutez la question du climat, au fait qu'on est en train de devenir gentiment des crétins numériques, et qu'en plus on a cette montée du totalitarisme à la Poutine qui est quand même pas le meilleur de l'homme, il y a quand même de quoi réfléchir un peu, quoi. C'est un peu l'idée du livre. C'est-à-dire que le livre, c'est une réflexion sur nous-mêmes. C'est qu'est-ce qu'on fait de nos vies finalement collectivement? Parce qu'aujourd'hui, on est essentiellement dans la prédation. On est essentiellement dans la destruction d'un rapport à la nature qui est indispensable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se déconnecte complètement de la nature, ce qui est en train d'arriver avec l'évolution technologique et surtout cette cupidité qui est la nôtre. Parce que, en fait, toute la question, c'est la question de la cupidité. Et on le voit avec ce qui se passe en Ukraine. Moi, je suis fasciné par Poutine. Moi, j'ai travaillé sur lui. Vous savez, quand j'ai écrit Une exécution ordinaire, j'avais été en Russie. J'avais beaucoup travaillé déjà sur lui à tous ses débuts. Et c'est effrayant de voir ce type de personnage, cette façon quasiment morbide qu'il a d'aborder la vie.
Vous dites qu'il est arrivé au pouvoir sans rien.
C'est assez dominant, quoi.
Vous dites qu'il est arrivé au pouvoir sans rien et qu'il est devenu milliardaire, qu'il venait de nulle part. Et en fait, ça illustre bien cette notion de cupidité.
Oui, c'est-à-dire que là, c'est vraiment Alibaba et les 400 voleurs, quoi. Ils ont un patron, ils sont 400 et ils ont mis le pays
les oligarques à sac.
Les oligarques, ils ont mis le pays à sac. Et en fait, de quoi ils ont peur aujourd'hui? Ils ont peur du modèle démocratique, parce que c'est un modèle qui est, même s'il n'est pas parfait, quand même essaye d'aller vers plus de partage. Or, le partage, il n'y en a pas en Russie. C'est une confiscation, c'est une mystification.
En fait, vous n'êtes pas étonné de ce qui se passe, finalement. Vous êtes presque surpris que ça ne soit pas arrivé plus tôt?
Mais pas du tout, parce que quand j'ai écrit Une exécution ordinaire, c'était quoi? J'avais fait une enquête sur le Kursk, qui est vous vous souvenez, ce sous-marin qui avait disparu. Et on savait très bien où il était à 100 mètres de profondeur, ça veut dire qu'on pouvait récupérer les membres d'équipage. Et moi j'ai vu les corps des membres d'équipage à la morgue de Moscou, et je me souviens qu'en fait, Poutine les avait laissés mourir pour qu'ils ne puissent pas témoigner de ce qui s'était passé. Donc déjà, il venait d'accéder au pouvoir, il était encore, je crois, à l'époque, premier ministre, et déjà, il avait laissé mourir 25 jeunes marins qui se sont vus mourir progressivement par manque d'oxygène parce que il a refusé qu'on les secoure pour que ils ne viennent pas contrarier son discours officiel. Donc ça en dit long quand même sur ce qu'est le personnage.
Sans aucun état d'âme.
Et ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens pour s'étonner de ce qu'il est, alors que il y avait déjà tous les signes.
Mais ce que vous dites, sur Poutine, c'est-à-dire le côté ne soyez pas étonnés, on le sait déjà, s'applique à beaucoup de choses que vous racontez dans le livre, notamment sur l'écologie, notamment sur la surconsommation avec une moitié de la planète qui est en obésité, l'autre moitié qui est affamé et qui est en manque de nourriture, sur l'intelligence artificielle qui finit par nous rendre fainéants et presque ralentit notre propre réflexion. Il y a beaucoup de...
Mais c'est le sujet de Don't Look Up, le film.
Aussi, mais sauf que...
On sait, mais on fait pas.
Voilà, c'est ça. Il y a un côté de lanceur d'alerte dans votre livre. Au-delà de l'autoportrait, au-delà de l'observation et de la manière dont vous vous racontez par le prisme des sœurs Chocottes.
Ben, le problème, c'est que c'est un peu compliqué d'être... d'être optimiste. Je vais vous donner un exemple. Là, moi, je suis donc sur une falaise, d'accord ? Enfin, une falaise, on va dire, une colline. Et en bas, il y a des maisons qui sont devant la mer. La mairie nous a dévoilé, en fait, le plan d'inondation pour les années qui viennent. Et toutes les maisons qui sont en bas, là, d'ici 2030, elles sont sous la flotte. Et en fait, on regarde ça et on dit bon, ben alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de trouver des terrains pour reloger les gens qui sont en bas et tout. Mais sur les causes réelles, on bouge pas. C'est-à-dire, on continue avoir des bagnoles qui polluent. On continue dans une espèce de. On a l'impression, c'est le syndrome du vélo, c'est-à-dire que si on arrête de pédaler, on va tomber. C'est la même question avec la croissance. Si on arrête la croissance, c'est une espèce de. L'être humain, c'est essentiellement. Le pouvoir et des croyances. Et les croyances comme celle de la multiplication des biens est la seule façon, en fait, qu'on a de vivre. On est dans cette croyance et on n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est complètement fou, en fait. Donc, on multiplie les biens qu'on va produire en Chine, et puis après, ça nous met dans des états de dépendance. Parce que la question de l'énergie, avec la Russie, si on avait, depuis longtemps anticipé la crise climatique, on serait pas dépendant de la Russie sur le plan énergétique. Donc en fait tout ça est lié, c'est ça qui est intéressant.
On va continuer d'en parler. Compter les moutons, c'est publié chez La Thèse dans la collection Bestiale. Et je rappelle tout à l'heure celle qui a initié cette collection, Clara Dupont-Monod, sera notre invitée pour en parler avec Marc Duguin. Alors Marc, nous sommes ravis de faire cette émission avec vous, même à distance. C'est pas le cas de tout le monde, vous savez. Ah, la nature humaine. Morgane Cadignan ne vous aime pas. Pourquoi ne pas aimer Marc Duguin ?
Ah mais Marc Duguin quoi, je l'ai tellement traumatisé l'année dernière qu'il a même pas voulu revenir physiquement dans le studio.
C'est dégonflé.
Ça va, on dirige des compagnies aériennes, on écrit des bouquins, on réalise des films, et quand il s'agit de me défier en un contre un, on préfère faire ça par téléphone. Mais il a pas le Covid, il a la trouille. Ouais. Si... Hey, mais si j'avais su qu'on pouvait faire cette émission à distance, par contre je ferais ça de chez moi en fait. Pourquoi on est là ? Je pense que je peux perdre au blind test de mon lit quoi. Mais on ferait tous nos chroniques chez nous, puis Leïla elle ferait l'interoculture et les gens ils commenceraient à jaser parce que c'est le même motif de ouf de couette que moi. Et bim, on nous blâme lesbienne dans Télé-Loisirs alors qu'on avait juste le même code promo
dans
chez Blanche Porte. Franchement, moi je faisais pas partie de l'émission encore, les amis. Je faisais pas partie de la bande pendant le confinement. Mais je vous regardais et excusez-moi, il y en a, ça se voit qu'il n'y avait pas de pantalon en dessous, quoi. Hey, Daniel, il a jamais les traits du visage aussi détendus que quand il porte pas de slip. Et c'est une info que je regrette
mais pourtant,
de savoir.
Là,
ça te sent trop.
Bref, ils ont raison, vos moutons, Marc, vous devenez ermite. Et c'est bien comme animal, le mouton. Je suis contente que vous ayez choisi ça. C'est beaucoup plus noble qu'on croit, un mouton. Déjà, apparemment, ils sont édités chez La Thèse, eux, et c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, David Fonkinos, malgré sa coiffure qui s'en rapproche, est resté coincé chez Gallimard, lui. Moi, j'adore les moutons et je déteste l'expression qui dit que quand les gens sont des suiveurs, ce sont des moutons. Se balader sur des sentiers, produire de la laine à volonté, c'est quoi le problème? Si c'est un berger de qualité, je vois pas de souci à le suivre. Vous voyez le parallèle avec les Français et Emmanuel Macron? Non, c'est normal. Il n'y en a pas, je faisais juste une ode aux moutons, vraiment. Le principe de la collection, c'est donc de raconter un auteur à travers son animal. Et ça me rend ouf, parce qu'évidemment que va paraître la lionne de Tiergarten, de Wendy Delorme, ou le renard de Pauline Armange. Bah bien sûr que des animaux un peu cool, comme par hasard. On a toujours un peu envie que nos animaux fétiches, ça soit des animaux nobles. Genre, je me reconnais vraiment dans la panthère noire, cette espèce de nonchalance élégante, c'est tout moi. Alors que je me suis vue en vidéo à un buffet de mariage, on est sur du raton laveur, d'accord ? Ah là là !
Fatigué, fatigué.
Ah là là, un bon vieux raccoon des familles, là, qui plonge chez Gris dans un seau de cacahuètes et qui va les boulotter en paix à l'arrière du garage. Boulotter en paix ! Stéphane Echard était boulimique depuis le début. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exercice de la collection parce qu'en plus d'apprendre beaucoup sur les auteurs, ça nous amène à nous demander ce que raconterait nous notre animal. Et c'est là qu'en fait, t'es tellement contente qu'il parle pas parce que les choses qu'il voit quand on est seul chez nous, le chat de Fanny, il parle. Hein. Moi, il m'a dit un jour, meuf, j'ai la parole, je peux parler, j'ai juste décidé de me taire parce que si je commence, waouh, ma litière, c'est la boîte de Pandore, quoi. Faut que je me taise. Ma plus belle histoire avec un animal, moi, c'est avec une noix que mes grands-parents voulaient tuer pour Noël aux Antilles, pour la manger, pour le réveillon. Elle a passé la journée attachée à un arbre au fond du jardin en attendant le sacrifice.
Non.
Moi, j'avais 10 ans. Mais non, attendez, ça me rendait super triste. Et je suis allée la libérer.
Yes.
Parce que je savais que j'allais me faire pourrir, mais je l'ai détachée parce que dans mon cerveau d'enfant, c'était la chose à faire. Elle s'est échappée, elle a couru, elle a pris son envol et elle est allée se poser sur la terrasse. Encore plus proche de la cuisine, donc. Mon papy l'a recapturée. Je me suis faite engueuler comme jamais. J'ai été privée de dessert, donc morale de l'histoire. Non seulement j'ai dû bouffer l'oie, mais sans bûche au chocolat à la fin.
Aïe.
Donc vraiment une bonne opération. Et là, je me suis dit, c'est mon animal totem, l'oie. Par flemme d'aller plus loin dans la vie, je vais sûrement être capturée et mangée par un enfant mécontent dans les dom-toms. Et comme toutes les oies, je serai à chier pour faire des métaphores.
Merci, Morgane.
Et Morgane, enfin, ce soir à Genève.
Ah, voilà.
Il était temps. Hein. Marc Duguin signe Comptez les moutons chez Jean-Claude Attès dans la collection Bestiale, avec des sujets, finalement, vous êtes la cible des sœurs Chocottes, c'est-à-dire qu'elles vous racontent, mais tous les sujets de notre planète sont abordés, y compris l'actualité avec le balance ton porc ou le hashtag MeToo que vous évoquez aussi par un voisin qui passe régulièrement faire du vélo, si j'ai bien lu.
Oui, vous voulez. Ouais, en fait, j'habite dans le même village que Nicolas Hulot. Et on habite à, je sais pas, 100, 150 mètres l'un de l'autre, en fait. Et donc, oui, j'ai suivi cette déferlante qu'il a clouée au sol. Quoi. J'ai trouvé ça assez violent parce que. Je pense qu'il n'y était pas préparé dans sa tête. Et c'est vrai que là, d'un seul coup, quand un truc comme ça vous... Et puis le côté, en fait, désocialisation totale, immédiate.
Ouais.
Et sans avoir la chance de pouvoir vraiment s'expliquer. Enfin, j'ai trouvé ça assez.
Il a eu la chance de s'expliquer à chaque fois.
Assez,
il a eu la
possibilité.
Il a eu la possibilité de s'expliquer. Marc Duguin, il a à chaque
violent,
fois précédé un certain nombre de révélations et en disant qu'il ne comptait pas justifier. En fait, il a eu l'occasion de le faire quand même. Il a eu l'occasion.
Oui, certainement. Mais je pense que c'est tellement. Bon, moi, c'est difficile. Moi, j'ai pas de.
Non, mais dans le livre, ce qui est intéressant, Marc Duguin, c'est que vous expliquez que, en effet, de même qu'on parle de prédation en général, il y a une problématique de domination, de prédation, et que c'est très très bien que la parole se libère, que les femmes soient entendues.
Ouais, ça, c'est clair.
Et donc ça, vous êtes voilà, parce que là, à vous entendre sur cette dernière phrase, on pourrait se dire ah bah il est simplement dans une forme d'empathie pour Nicolas Hulot. Il n'en est rien dans le bouquin, en tout cas. Vous êtes vraiment très très ferme sur le côté. Voilà, il y a des choses qui ne doivent plus se produire. Et c'est très important. Et d'ailleurs, dans le dernier film, Eugénie Grandet, on a pu vous recevoir à ce moment-là, ou même dans le film, on le voit, cet engagement féministe, c'est un engagement en plus qui est ancien chez vous, dans la famille, c'est hyper important. Mais
c'est pas d'opportunisme.
C'est pas de l'opportunisme, clairement. Loin de là. En revanche, vous expliquez que le déferlement médiatique, le sorte de tribunal sur les réseaux sociaux, c'est ça la problématique. Mais quand on parle de violence, il n'était pas prêt à se recevoir ça. Voilà. Les victimes n'étaient pas prêtes non plus à subir ça et surtout à faire le travail d'aller porter plainte.
Personne n'est prêt à se faire
choper. Ouais. Ouais.
Non, mais c'est vrai que en fait, bon, quand vous connaissez pas les gens, ça reste assez théorique en fait.
Ouais.
Et quand vous les connaissez, quand vous voyez cette espèce de tsunami arriver sur eux, c'est très impressionnant.
Mmh. Vous subissez indirectement l'onde de choc, vous voulez dire.
Oui, on voit. Ben c'est pas du tout un jugement de valeur de dire non, c'est pas normal, je pense pas aux victimes, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste le ressenti de voir quelqu'un qui a eu quand même beaucoup de notoriété, dont la parole comptait en matière d'écologie, ça c'était très important, et qui du jour au lendemain, en fait, s'est fait complètement décimé par cette émission, qui d'ailleurs est une très bonne émission. Moi, j'hésite pas à le dire, parce que j'aime beaucoup cette émission. Voilà, c'est le monde dans lequel on est, mais effectivement, moi je suis tellement, choqué par la façon dont les hommes se comportent, et se sont comportés aussi longtemps, sans finalement qu'il y ait énormément de réactions, que je trouve qu'aujourd'hui, effectivement... y a une nécessité, quoi. Et,
oui. Alors l'émission dont vous parlez, je crois, c'est Cache Investigation.
Cache Investigation, voilà. Et Élise Lucet.
Et Élise Lucet.
J'aime beaucoup Élise Lucet parce que je trouve que c'est quelqu'un qui, justement, en matière d'investigation, mais en matière d'alerte, joue un rôle en plus dans le service public. Donc,
elle est courageuse dans ce qu'elle fait. Oui, absolument. Voilà, ouais. Vous êtes dans. Il y a un moment qui est bouleversant également dans le livre, c'est quand vous vous racontez encore une fois par le prisme des sœurs Chocotte et que l'on apprend que vous avez été plutôt du côté des victimes. C'est un moment qui est absolument bouleversant. Je ne sais pas si vous aviez déjà eu l'occasion de le raconter, mais sincèrement, au moment de la lecture du livre, je me suis arrêté, je suis revenu en arrière, je dis mais est-ce que je comprends bien ce qui est en train de se passer, que vous avez échappé à un prédateur.
Oui. Quand j'étais adolescent, j'étais vraiment un jeune adolescent, j'ai fait une fugue. Parce que j'avais un moment un peu compliqué avec mes parents à ce moment-là. J'ai été pris en stop par un homme qui était extrêmement costaud, qui avait une cinquantaine d'années, et qui, en fait, m'a séquestré. Et j'ai réussi... il se trouve que j'avais commencé déjà les arts martiaux. Ça, c'est une chance. Et donc, je me suis défendu et j'ai sauté du premier étage par la fenêtre.
Mais ça vous a marqué ? Cette horreur-là,
ça c'est quelque chose qui vous marque à vie. Donc donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi, c'est difficile de dire que je ne comprends pas ce que ressentent les femmes, puisque ça peut aussi toucher des garçons, en tout cas des. Et puis j'ai eu dans ma famille un cas de pédophilie très grave, enfin d'enfant qui a été agressé par un pédophile, qui a pris 7 ans de prison ferme, ce qui est quand même assez rare. Et donc moi je suis très sensible évidemment à tous ces sujets d'abus de pouvoir sur les enfants, les femmes. Enfin c'est quelque chose qui est évidemment il faut pas lâcher l'affaire.
Voilà, il faut pas lâcher l'affaire. Et puis les sœurs Chocotte digressent aussi autour de la valeur du sport, notamment qui vous a sûrement permis de vous sauver à ce moment-là. Mais vous continuez aussi sur la notion de pas spécialement vieillir plus vieux, mais rester jeune plus longtemps. En fait, je sais pas comment.
Vieillir plus jeune.
Ouais, c'est ça. Ouais. Vivre plus jeune.
Vivre plus jeune.
C'est ça. Vivre.
Oui, c'est ça en fait. La question du sport, c'est ça. Moi, je pense que c'est totalement illusoire de croire qu'en faisant du sport, on va vivre longtemps. En revanche, ce qui n'est pas exclu, c'est que le temps qu'on va vivre, on va le vivre
mieux,
plus jeune. Parce que, voilà. Donc, ça explique que quand j'ai pas le Covid, par exemple, je fais entre 1 heure et 1 heure et demie, 2 heures de sport par jour. Le corps, c'est notre traître. On vit avec un traître qui va finir par nous zigouiller. Bon, donc ce rapport qu'on a au corps, moi j'essaye de faire en sorte que ce traître ait le moins d'occasion possible d'annihiler ma pensée.
Oui, mais voilà. C'est ça. C'est le
aussi simple que ça.
C'est le rapport que vous avez à l'être, c'est le rapport que vous avez au vivant, c'est le rapport que vous avez aussi à l'enfance, à la transmission et au respect de la planète. Respect de la planète qui va, tout à l'heure vous évoquiez la cupidité d'un certain dictateur, mais la vôtre ne, enfin sur le, je repense au terrain sur lesquels les sœurs chocottent. Bah oui, c'est-à-dire que vous vous êtes pris d'affection et de tendresse pour un couple que vous pouvez, vous avez un droit de vue et non pas un droit de vie ou de vue de mer, voilà, et pas de vie ou de mort sur le sur ce terrain-là et vous l'avez. Vous jouez un rôle presque de quoi, de médiateur, de garder l'équilibre en préservant ce terrain, en le laissant à des animaux, alors que vous pourriez le vendre et faire une opération immobilière.
Ben c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes maintenant, je pense que à peu près tout le monde le sait, tout ce qui est en bord de mer est très demandé. Et donc, il y a de la spéculation, donc il y a des promoteurs. Là, on en a un qui vient de nous faire deux horreurs innommables. Enfin, il y a la cupidité qui mène le monde, comme on le sait, j'ai pas besoin de le répéter, fait que, de toute façon, dès qu'il y a un espace de libre, voilà, on va construire un truc, on va artificialiser, on va chasser le
monde animal. Oui, mais votre démarche n'a pas été spécialement... Vous avez attendu ce terrain, et puis il y avait ce couple, j'allais dire ce couple de petits vieux, mais je le dis tendrement, encore une fois, que vous vouliez protéger, entre guillemets.
Oui, parce que d'abord, ils ont une vue et je ne voulais pas leur couper la vue parce que j'adore ces gens-là. Et puis surtout, je voulais que ce terrain, ce qui est le cas aujourd'hui, soit un terrain qui reste complètement en friche avec des haies qui poussent dans tous les sens. Et évidemment, les gens autour disent « Mais il est cinglé du gars, en fait. il coupe pas ses haies, il tombe pas sa pelouse.
» Non, puis les sœurs chocottes sont là pour entretenir la pelouse, donc c'est bien.
Ah oui, ouais, mais bon, alors, il y a un problème avec quand même le bouton de souris, je le dis pour les auditeurs, c'est que ça mange pas beaucoup d'herbe.
D'accord. Donc,
c'est pas un bon plan, en fait.
Non. C'est plutôt les ronces.
Ça mange les choses comme ça, donc ça c'est très bien. Mais pour l'herbe, non, c'est pas vraiment des tondeuses. Mais la question en fait, c'est toujours la même.
Boutons.
C'est que les gens ont l'impression que le fait de tout couper, les haies, la pelouse, d'artificialiser pour que leur voiture ait pas de boue, etc. En fait, c'est une façon de faire de l'ordre dans leur tête.
Oui.
Mais c'est pas de l'ordre, c'est un vrai désordre en fait. Et c'est ça qu'ils n'arrivent pas en fait à conceptualiser. C'est-à-dire que l'ordre qu'on impose à la nature est un désordre total. C'est-à-dire que le fait de tout couper, de tout régenter, crée une extermination en réalité. Et donc, bon, moi, à ma petite échelle, je vais pas me faire passer non plus pour le héros écolo contemporain, mais moi, à ma petite échelle, ce que j'essaie de faire, c'est de garder le maximum de terrain non construit et de façon à ce que le règne animal et végétal puisse se développer.
Vous attendez que l'eau monte un peu pour que les prix montent également,
c'est ça.
Meilleure plus-value.
En fait, je suis en relation avec Poutine jusqu'ici.
Voilà. Les sujets.
Moi, je suis à l'extrême ouest par rapport à la Russie, donc.
par rapport à Vladivostok, on est à l'opposé, on est d'accord. Voilà. La démocratie, l'injustice, la religion, le racisme, le trumpisme, tout y est, mais surtout des valeurs incontournables. Un livre qui fait du bien et qui est extrêmement agréable à lire. Comptez les moutons, Marc Dugain, on va continuer à en parler jusqu'à 12h30, mais d'abord, voici Fanny Ruet dans la bande.
Coucou les pipous, coucou Kiki. Je pense que les présidentielles, c'est comme les gangbangs, c'est le premier tour le plus excitant. Genre, ils sont 12 et de tous les côtés, t'entends crier « Laissez-moi finir !» Puis t'en prends plein les yeux et tu repars confus parce qu'au final, tout le monde est trop occupé à se toucher la nouille pour s'occuper des autres. Donc vraiment, je préfère le premier tour. C'est plus fun quand tout le monde participe. Second tour, il n'y a plus la gauche. Parce que la gauche, c'est le type qui est tellement content d'être dans ton lit qu'il jouit à la minute 4. T'as à peine le temps de savoir qu'il est là, qu'il a déjà terminé. Non, le second tour, c'est nul. Ils sont deux, c'est un vieux couple qui s'engueule devant le juge pour avoir la garde et à la fin, c'est le plus riche qui gagne. D'ailleurs, pourquoi pour la présidence, on ferait pas une garde alternée? Finalement, la semaine avec la droite, week-end et grandes vacances avec Boutou. Autre endroit d'ailleurs où la politique et les relations se rejoignent, c'est que les noms de partis, c'est comme les bio Tinder. Plus t'es vague, plus tu chopes. Genre Reconquête, République En Marche, Rassemblement National, Debout la France, Soyons Libres. Ça veut rien dire en vrai. Les noms de partis prennent de moins en moins parti et c'est pas clair. Et c'est bien la première fois que la droite préfère ce qui n'est pas clair. Et tu sais pas exactement ce qu'ils veulent et sûrement qu'eux non plus. Et tu sens qu'ils ont juste envie de ratisser vraiment large, de trouver le plus petit commun dénominateur entre les gens. C'est sûr, dans 2 ans, il y aura le parti des bipèdes, qui d'ailleurs sera très validiste. Tandis que le nom des plus petits partis, c'est beaucoup plus précis. Genre le parti socialiste, C'est clair, ceux qui veulent le socialisme. C'est comme quand j'ai demandé pour Noël le set Lego 76389 d'Harry Potter à la Chambre des Secrets, édition 10e anniversaire à 139,99€. C'est ça, le socialisme. Je savais que je l'aurais pas, mais je savais ce que je voulais. Et c'est pareil, les noms comme ça, Europe, Écologie, Les Verts. Le nom, il est très précis. Europe, Écologie, Les Verts, tu peux t'identifier à chaque mot, même le lait. Genre, c'est pour ça que les écolos, ils mettent souvent des sarouels, je pense que c'est du soutien. Mais bref. Donc ces parties-là, les plus spécifiques, bah, bizarrement, ce sont ceux qui marchent le moins. En fait, plus ils annoncent leurs intentions, moins ils en ont de vote. Et c'est comme la drague, il faut rester mystérieux. Si ta bio Tinder, c'est « j'adore emballer les gens dans du cellophane », ça ne passera pas. Par contre, « j'adore filmer les gens »,
jeu de mots.
Ah ben oui, écoute, ouais. Enfin, après, t'as pas besoin de préciser si c'est des films indépendants ou des films plastiques. Mais, je me dis, pour la politique, quitte à être mystérieux, poussons le délire plus loin. Créons un parti surprise, le surprise party. Et oui, ce serait un parti qui admet que plus personne ne comprend rien, une sorte de la France incertaine, par Jean-Luc Mélenchetout. Hein, ça serait marrant.
Moi, je suis pour. Hein.
Dans le surprise party, il y aurait pas de ministère. Que des mystères. Tous les candidats, ils auraient des noms de code. Valérie Pécresse, ce serait Mystère Vie. Jean Lassalle, ce serait Mystère Bean. Ce serait trop bien. Bref, ce serait le parti parfait pour tous les gens qui ne savent pas pour qui voter ou qui juste ne croient plus en la politique, parce qu'il y en a plein. Et d'ailleurs, autre truc marrant au sujet des noms de partis, c'est que dans quasiment tous, il y a une idée de mouvement. Genre Debout la France, Rassemblement National, République En Marche, alors que c'est le milieu le plus lent et bureaucratique qui soit. Genre toi, t'es assis dans ton siège de parti et tu dis à des infirmières et des profs d'aller se bouger le cul. Et cette notion de mouvement, elle est aussi très contradictoire avec le fait que plus de 20% des Français ont la flemme d'aller voter. Genre comment tu veux faire bouger la France vers l'avenir alors que tu la fais même pas bouger jusqu'au bureau de vote? C'est comme essayer de convaincre quelqu'un de plus prendre d'héroïne quand il a déjà du mal à arrêter le café. Mais du coup... Je comprends pas pourquoi aucun politicien n'a pensé à prendre ce créneau. Le parti des flemmards. La République en veille. L'idée par Emmanuel Macouette. Eh oui, eh oui. Bien, Debout la France. Mais pas trop vite, sinon ça tourne. Et évidemment, ce sera un parti écolo. Adieu le gaz russe, adieu le nucléaire et tout. Pas besoin d'énergie quand tu n'en dépenses pas. Un geste pour la planète, la sieste. Oui, mais bon, voilà, ce sont juste des petites idées, comme oui. Ça, pour dans 5 ans. D'ici là, c'est le premier tour cette semaine, ce week-end. Bah, faites ce que vous voulez, mais faites-le avec conviction.
Et allez voter, absolument, merci.
Fanny Ruet qui sera bientôt où ? À Genève, sur les traces de Marc, mais aussi à Lille et à Toulouse.
La même housse de couette.
Marc Dugain signe Comptez les moutons, c'est chez Jean-Claude Attès dans la collection Bestiale. On va évidemment continuer de parler de ce... il faut qualifier comment ? C'est un essai, c'est pas un roman, c'est pas une autobiographie. Comment vous aimeriez qu'on... Parce qu'il faut toujours il faut des étiquettes dans notre pays, donc je mets dans quelle catégorie ?
Bah, sans étiquette.
Voilà.
Très bien.
Le parti surprise.
Sans étiquette. Voilà, surprise.
Bestiale. Mais il n'y a pas de musique. Alors, il n'y a aucune musique dans
ce livre. Parce qu'il n'aime pas le bruit. Il n'aime pas que... Marc Dugain aime le calme.
D'accord. La musique, c'est pas du bruit. La preuve. Bon. En 1962, vous écoutiez... Only
Bonjour.
Ça va?
Nana Mouskouri, c'est vous ?
Qu'est-ce qu'elle évoque cette musique pour vous, Marc Dugain ?
Bah, c'est une musique que mes parents écoutaient beaucoup en Afrique et en retour d'Afrique parce qu'ils avaient la nostalgie de leur temps en Afrique. Donc,
vous êtes né au Sénégal.
Les Platters, je les ai entendus en long, en large, quand j'étais môme. Et en fait, je continue à beaucoup les aimer, ouais.
On est en 62, Marc Dugain, et vous arrivez en France. Alors, 62, c'est. Voilà, dans l'imaginaire collectif, on pourrait imaginer l'Algérie, mais pas du tout. Vous êtes né en effet au Sénégal et vous vous installez avec votre famille à Grenoble et vous dites que vous étiez un enfant, ouais, difficile à gérer, qui avait une problématique avec l'autorité.
Ouais, mais ça s'est pas calmé depuis.
Et est-ce que vos enfants sont comme ça aussi ?
Pas du tout.
Ouais. Vous avez de la chance, donc.
J'ai 4 enfants qui sont très très différents parce qu'ils sont 3 mères différentes. Et vous savez à quel point la mère a de l'influence sur les enfants dans sa génétique et dans leur façon de grandir. Donc, ils sont très différents, mais aucun n'a le mauvais caractère que j'avais, bizarrement.
Ce qui est génial, c'est que à propos de la surpopulation de la planète, ouais. Vous dites
l'enfant unique.
J'ai eu en fait, on s'est mis à quatre pour avoir quatre enfants.
Quatre enfants, donc on n'excède pas la reproduction.
Les quotas,
voilà,
c'est ça.
Parce que en gros, ce que vous expliquez dans le bouquin, c'est que vu les circonstances climatiques et environnementales, un enfant ça suffit bien, et que c'est pas parce que dans un livre vieux de je ne sais combien de millions d'années, on vous dit de vous reproduire qu'il faut pas être capable de se réguler tout seul.
C'est au moment de s'engueuler avec la famille qu'il faut acheter le terrain.
Ouais.
Ben vous savez, il y a toujours cette phrase. Moi, c'est si je devais mettre une phrase au-dessus de mon lit, c'est la phrase. Je crois qu'on. Alors, c'est difficile de savoir à qui on l'attribue, mais je crois que elle est du père de Camus, en fait. C'est être un homme, c'est savoir s'empêcher. Et je trouve qu'en fait,
moi, ça m'empêcherait de dormir de l'avoir au-dessus de ma tête dans le lit. Ça.
C'est le genre passe-partout de la pensée, mais c'est pas mal parce qu'en fait, alors sur la question démographique, oui, on a aujourd'hui on a quand même des projections qui nous amènent à 12 milliards, alors qu'on est 7,5 à 12 milliards, ça va craindre. Hein. Vraiment, surtout si c'est 12 milliards qui consomment comme des malades, je vois pas, enfin cette pauvre planète, je vois pas vraiment ce qui peut la sauver. Hein. Donc après, quand je parle,
il faut déjà arrêter.
Écologistes,
il faut arrêter de manger. Il faut arrêter de manger la viande et des moutons. Non
bah oui, c'est pour ça que je mange pas moi mes moutons. Vous aurez remarqué.
Et arrêter de faire des enfants alors.
Bah arrêtez de faire des enfants. Non, mais il y a quand même. Il faut arrêter l'incontinence. Là, je comprends
l'autre jour. Par définition, c'est compliqué de l'arrêter, quoi.
J'ai 12 enfants. Comme on dit dans certains milieux, chaque coup compte, mais quand même.
Référence au Monty Python.
Oui, c'est ça.
Voilà. Ah, vous êtes hyper en forme, en fait.
Il est en super forme.
Il faut rester raisonnable. Parce qu'après, tout ce monde-là se reproduit encore. Et ça fait des courbes alarmantes. Non, sans être dans la politique de l'enfant chinois unique, enfin, la politique de l'enfant unique en Chine, excusez-moi.
C'est pas pareil, c'est pas ça.
Je pense que voilà, il faut raisonnablement, il faut se limiter à deux. Voilà.
En 1980, vous écoutiez la BO de Bullet, Lalo Schifrin. Ça, vous avez choisi cette musique pour ce qu'elle évoque d'un point de vue cinématographique ou pour ce qu'elle évoque d'un point de vue émotionnel et en suspense? C'est le cinéma.
Moi, j'adore ce film.
Ah, clairement.
Alors, je me suis engueulé avec des cinéphiles qui me disaient « Ouais, c'est mal foutu, c'est ci, c'est ça. » Je leur ai dit « Moi, je m'en fous, j'adore. » Et en fait, je ne veux pas analyser pourquoi. C'est que ce film... en fait, représente des années heureuses pour moi. Des années quand j'ai découvert les États-Unis, San Francisco. Voilà, c'est quelque chose qui restera toujours.
Des années 80, vous êtes expert comptable à Paris, vous enseignez à Subdeco à Lyon. J'ai la sensation, Marc Duguin, que ça ressemble à une couverture. Je sais pas pourquoi, je vous vois pas expert comptable. Je vous imagine mille vies. En fait, à chaque fois que je vous lis ou que je vois un de vos films,
c'est le cas, ouais.
Et avec cette musique-là, on est un peu sur un truc d'espion, d'espionnage. Je vous vois aux renseignements généraux, je me trompe.
Alors, vous savez, il y a une phrase, quand j'ai eu 50 ans, et c'était il y a longtemps, je peux vous le dire.
Ouais, c'est ça.
Il y a mon fils aîné que j'adore, qui est très très écolo d'ailleurs, qui a fait un petit speech et qui a dit « Mon père, on peut l'aimer, on peut l'adorer, mais personne ne peut le connaître. »
C'est ce qui est dans le livre.
Et voilà, je l'ai mis dans le livre et en fait, ça m'a choqué parce que je me suis dit « Mais en fait, sincèrement, je suis hyper transparent. Il n'y a pas de... » Alors, soit tout est une couverture, y compris d'être écrivain, d'être cinéaste, et que en fait, je travaille pour le FSB, pour Poutine derrière... Mais ça me paraît peu probable. Mais non, j'ai fait plein de choses. En fait, pour vous dire la vérité, j'ai fait beaucoup de mauvais choix. C'est surtout ça. C'est-à-dire que...
Ah, vous aussi. Ça s'appelle des expériences.
Surtout ça donne l'impression du mec qui a fait plein de trucs. C'est que je me suis planté très souvent.
C'est une idée de collection. Donc, super, ça. J'ai fait des mauvais choix.
C'est ça. Chez la thèse. Mauvais choix chez la thèse. Puisqu'on évoque votre grand-fils, il est aussi le sujet, le prisme par lequel vous évoquez la religion, en rappelant que vous descendez d'une éducation éducation d'une famille juive avec aussi une éducation protestante et que votre fils est devenu musulman. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un mélange.
Non, il n'est pas devenu, parce que ça, c'est mon second fils et en fait, il est. Je l'ai eu. Sa mère est musulmane et oui. Il vit au Maroc et donc il a épousé la religion de sa mère.
Oui, pardon. Enlevons le devenu, mais je voulais juste montrer.
Il n'est pas devenu. Il est là. Il fait le ramadan là. Il devait venir en vacances. Il m'a dit non, avec le ramadan, ça va être trop compliqué. Donc il viendra après. Mais moi, je respecte ça parfaitement et je trouve que c'est très facile à vivre en fait.
Et que toutes les religions peuvent vivre dans une même famille.
Ah bah complètement.
Ouais. Ouais, non,
c'est même ça. L'enfant unique chinois.
mais vous savez, alors il y a eu une expérience que je trouve géniale qui a été faite par des scientifiques. Vous savez, ils prennent une colonie de singes et puis à un moment ils mettent une barrière et les divisent en deux et ils mettent une barrière. Et là ils commencent à se faire la guerre.
Simplement parce qu'il y a une barrière qui les sépare.
Voilà, c'est ça. Tant qu'ils sont ensemble, il y a aucun conflit. Et dès qu'on les sépare, il y a des conflits. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toutes ces questions de
vivre ensemble.
C'est évident que le lien qu'il y a entre nous dans la famille, entre mes quatre enfants, mes quatre petits enfants, n'est absolument pas dépendant ni de la religion ni de quoi que ce soit. C'est ce que moi j'ai essayé de leur transmettre, de l'affection qu'ils ont entre eux, et je pense que ça suffit largement.
Et c'est ce que nous transmettent les sœurs Chocotte, auteurs du livre Comptez les moutons, soi-disant signé par Marc Duguin. Mais
Faut pas oublier le chat, Lady Kate.
La chatte. Mais c'est une balance. Elle raconte tout à tout le monde.
C'est ça qu'on adore avec les chats.
C'est une horreur. chez Jean-Claude Dattès, Bestial, cette collection. Bonjour Clara Dupont-Mono, que vous avez initiée. D'où vous est venue cette idée? De contacter des auteurs en disant écrivez comme si vous étiez un animal.
Oui, en fait, quand on écrit un livre, c'est assez cérébral, mais c'est aussi assez animal comme exercice.
Dans quel sens?
C'est une affaire de corps, l'écriture. C'est une affaire d'instinct. Vous avez des écrivains qui ont tout le temps faim quand ils écrivent. Il y en a qui arrêtent de s'alimenter, au contraire. Il y en a qui dorment très mal. Il y en a qui dorment beaucoup.
Il y en a qui ont très soif.
Exactement.
Ils prennent la plume. Ils prennent la plume.
Voilà, la plume, ça appartient au registre animal, même comme au niveau du champ lexical. Et en fait, très souvent, l'écrivain, il peut être décrit à tort ou à raison, mais comme un animal. Justement, vous voyez un peu, il y a l'idée de la tanière. On tourne en fait sans arrêt autour du registre animal.
Alors
avec
là,
l'écriture.
On est dans la forme, mais dans le fond, est-ce que passer par un autre prisme ferait qu'il se raconterait ou qu'il dirait plus de choses?
Oui, en fait, là, Marc Duguin, quand il racontait sa malheureuse expérience de la séquestration, je ne sais pas si Marc, tu aurais pu le raconter s'il n'y avait pas eu ce filtre de l'animal qui raconte. Et tout un pan de la littérature est fait de filtres. Flaubert, il prend le filtre d'une dame qui s'ennuie en Normandie. D'autres prennent le filtre d'une famille. D'autres des animaux. Et alors, il y a tout un pan aussi, justement, qui refuse le filtre. Et ça s'appelle l'autofiction, ça s'appelle l'autobiographie.
Pourtant, un filtre, ça retient, ça fait
exactement. Et ça, il y a une fonction de tamis. Qu'est-ce que je peux ne pas dire? Qu'est-ce que je peux dire, au contraire? C'est vraiment le principe du yaourt aux fruits avec les morceaux dedans. Mais c'est un peu ça. Vous voyez?
Et en Clara, fait, ça va, Clara?
Clara a faim et Clara est en train d'écrire un bouquin.
C'est son côté animal.
Oui, voilà, c'est le côté animal, le côté bestial.
Comment vous allez choisir les auteurs? J'ai dit que Valérie Bonneton allait arriver là en septembre avec Maman à moi. Il y aura ensuite Wendy Delorme, Ovidie, Pauline Armange. Comment vous les choisissez?
En discutant avec eux, en fait, quand j'aime bien des auteurs ou des personnalités, je les appelle et je leur dis est-ce que tu as un lien avec un animal, lequel? Ça peut être un animal qui leur fait peur. Donc j'ai pas encore eu ça, mais à mon avis j'aurai l'araignée, les serpents, souvent les animaux qui font peur.
Vous avez eu des refus?
Ah oui, il y a des gens où je comprends très vite que l'animal tient pas une place spéciale dans leur vie et que par ailleurs ça les intéresse pas plus que ça. Mais très souvent il y a des surprises. On se rend compte qu'une enfance a été traversée par la figure d'un âne, de serpent, d'un chat, d'un chien qui à un moment a joué un rôle. Ça peut être aussi l'animal qui brusquement a le rôle un peu de paratonnerre. C'est le cas de Wendy Delorme avec la lionne de Tiergarten. Elle est au zoo à Berlin. Elle tombe en arrêt devant une lionne et ça réveille des tas de choses que peut-être un humain n'aurait pas réveillé. Il y a quelqu'un qui va, on ne sait pas encore signer, mais qui va me faire sur l'escargot parce que c'est l'éloge de la lenteur.
Oui, vous voyez, c'est ça. En fait, c'est, j'aime bien, c'est pas encore signé. Bah, tu m'étonnes.
Ah oui, c'est pas encore signé. Ça, c'est sûr.
Ça va prendre du temps.
C'est ça, c'est ça. Et Clara, et je vous rappelle, j'ai oublié, pardon, de le préciser, que vous êtes écrivaine, journaliste, chroniqueuse à France Inter, éditrice donc chez Jean-Claude Lattès, prix Goncourt des lycéens en 2021, prix Femina en 2021 également pour s'adapter, publié chez Stock.
D'or.
Est-ce que vous allez écrire vous-même dans cette collection?
Ah, je me suis posé la question. Parce que moi, j'ai une bestiole chez moi qui est la lumière de ma vie.
Votre mari. J'ai une bestiole comme une autre.
Oui, exactement. Et je me suis demandé. Mais il y a aussi l'idée de l'animal fantasmé qui m'attire bien. Moi qui aime bien le Moyen-Âge, mais le dragon, la licorne. En fait, peut-être le plus beau livre qui a été écrit sur les animaux, c'est La Comédie humaine de Balzac. On peut le voir comme ça aussi. Ouais.
Oh, l'Arche de Noé, c'est pas mal aussi.
L'Arche de Noé, c'est pas mal. Et ça se termine bien.
Merci, Clara Dupont-Mono, d'être venue à ce micro. Et merci surtout d'avoir eu, cette idée, cette initiative qui a poussé Marc Duguin.
Nagui, moi je sais. Vous savez, le livre que j'aimerais écrire peut-être, c'est Moby Dick. C'est le cachalot Moby Dick qui me raconterait l'histoire de son point de vue.
Prix Femina, prix Goncourt. On va continuer dans les prix. Voici la remise des prix. Tom Villa. Alors, prix de la semaine.
Le prix de la semaine, c'est le prix du scénario de la semaine. Et dans cette catégorie, les nommés sont. Premier nommé est Kinder, qui a rappelé un lot énorme de produits. Et ce, juste avant Pâques, parce que beaucoup étaient contaminés de salmonelle. C'est pas de chance. Pour une fois que dans les Kinder, il y a une vraie surprise. Merde. Deuxième nommé, selon le dernier baromètre du comportement des Français sur la route, 80% des automobilistes ont reconnu utiliser leur smartphone au volant. Voilà, les 20% restants étaient au téléphone en conduisant et n'ont pas pu répondre à ce sondage.
Voilà.
Troisième et dernier nommé, ce gagnant de l'Euro Million qui a décidé de donner la quasi-intégralité de son gain de 200 millions d'euros à une fondation pour sauver la planète. Alors tout le monde pense que c'est beau, c'est le plus beau geste écolo.
C'est pas mal.
Si ça se trouve, il s'en fout de la planète et en fait, il déteste ses enfants. Il a fait ça uniquement pour les faire chier, peut-être, on sait pas.
Pour pas qu'ils héritent. Kinder.
Et le grand gagnant dans la catégorie du scénario de la semaine, c'est...
Non,
téléphone.
Non, c'est l'Euro Million.
Ah ouais. Okay.
Bah oui.
Okay. Ah bah oui, oui, bien sûr.
Kinder, ouais. Daniel l'a fait. Donc voilà, je vais pas le.
C'est pour ça.
Comme tous les sujets de la semaine, évidemment. En fait, entre Taillé et Daniel. Donc, un gagnant de l'Euro Million a gagné donc 200 millions en 2020 et vient d'investir la quasi-totalité de son gain dans une fondation pour la protection de la nature et du vivant. Quand on sait que la planète est en train de mourir, est-ce que le mot investir est bien choisi? Moi, j'aurais dit brûler 200 millions, mais ça, c'est un autre débat. Non, c'est une super action. C'est une super action. Il n'y a pas de débat. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut lui dire à un homme qui veut faire le bien autour de lui? On pourrait se dire, il fait ça pour se faire remarquer. Même pas. Ce monsieur, il a même pas révélé publiquement son identité. Non, il a même décidé de changer de nom dans une interview pour Le Parisien. Mais en pseudo, il a pris Guy. Pardon. Que tu veuilles garder l'anonymat, c'est bien, c'est chic, c'est classe. En revanche, prends au moins un pseudo qui a de la gueule.
Guy,
déjà, pardon, mais Guy, c'est pas un prénom, c'est un bruit que tu fais sous la douche quand tout d'un coup, sans prévenir, il y a de l'eau froide. Guy, voilà. Vous imaginez si on s'en sort grâce à lui, qui a sauvé le monde? Guy. Voilà. Non, Guy, c'est un mec qui a un collier de barbe, une calvitie, il est en retraite et il était prof de sciences nat. Guy, il joue au loto, mais il gagne pas au loto. Donc là, ce monsieur, il a décidé de donner la grosse majorité de son gain pour sauver la planète à une fondation en Afrique. Le mec n'a aucune notion des prix. En plus, sauver le monde, c'est génial. Mais d'où tu as sauvé le monde avec 200 millions? Quand tu sais que réparer Notre-Dame, c'est déjà 600 millions. Je veux dire, il va replanter des arbres. Ça sera pas l'Amazonie. C'est au mieux, c'est le bois de Boulogne. Ou alors, il a des choses à se faire pardonner, peut-être. Ah non, mais c'est sûr. Mais c'est surtout, en faisant cette action, tout le monde pense que c'est pour les autres, mais pas du tout. C'est le pire geste égoïste que j'ai jamais vu. Non mais sans déconner, ils vont passer pour qui les futurs gagnants du loto?
C'est ça.
Vous allez, alors vous allez faire quoi tout cet argent? Vous allez reboucher le trou de la sécu? Vous allez combler la dette européenne? Moi je vais m'acheter une Porsche, mais après...
Une Miranda.
Non mais ce Guy, c'est d'un... Quel égoïste. Et sa famille alors? Évidemment, quand t'attends une petite part du gâteau, tu gagnes 200 millions, tu peux filer 1 million à chacun, ça va pas te gêner pour boucler les fins de mois. Et au final, tu vas te retrouver avec un bon de 1000 balles chez Truffaut. Bon alors, blague à part évidemment, bravo à ce monsieur, c'est vrai que ça surprend, mais... Voilà, si vous avez envie de contribuer à cette fondation qui s'appelle Aniama, on laissera les coordonnées sur le site de l'émission. Alors c'est sûr qu'un petit don à côté de 200 millions, me direz-vous, hein, ça peut faire un peu chiche. Et en même temps, dimanche, on va voir la même problématique. Un bulletin, c'est pas grand-chose. Plusieurs, ça fait un ou une président-présidente. Bon courage.
Merci Tom Villa. Tanguy Bassureau, de quoi vas-tu parler dans la dernière demi-heure ?
Je vais vous parler de la guerre en Ukraine, de la crise climatique et de l'abstention. Oui,
bon super. Marc Duguin est notre invité. Comptez les moutons, publié chez La Thèse dans la collection Bestiale. On revient après les enfants. C'est la bande originale avec Léa Cadeau-Boudadi, Morgane Galino, Fanny Ruet, Tanguy Bassureau, Tom Villa,
bonjour.
Daniel Morin,
oh,
et notre invité, Marc Duguin. Comptez les moutons avec cette collection Bestiale chez Jean-Claude Lattès. Marc Duguin, qui, je le rappelle, a la chance de rester chez lui. On va le prendre comme ça, Marc, hein, plutôt que de d'attaquer sur un souci de santé. Mais merci en tout cas d'avoir accepté de faire cette émission malgré ce Covid. Je voulais juste vous demander, parce que vous avez beaucoup d'animaux, il y a le lapin qui est pris à pic, il y a la chatte qui est au courant de tout. J'en oublie, il n'y a pas que les sœurs chocottes chez vous.
Ouais, mais il y a pas grand chose.
Les chevaux poules, aussi en général,
la mort des poules, un chien.
Alors non, il y a pas le cheval, il y a la selle de cheval.
Il y a l'amour des chevaux.
Il y a pas la place.
Il y a l'amour des chevaux.
Et alors, pourquoi avoir choisi les sœurs chocottes pour vous raconter? Parce que apparemment, c'est votre chat qui est au courant de tout.
Ben j'ai fait un truc en fait un peu de réalisateur, c'est-à-dire je voulais avoir un point de vue extérieur. De quand je suis à l'extérieur, c'est-à-dire et là c'est les moutons qui me voient. Et quand je suis à l'intérieur, c'est le chat.
C'est le chat qui balance tout.
Oui, balance tout. Et donc, elle informe tout le monde. Parce que je la vois tous les jours, elle fait le tour, en fait. Et elle va voir les uns et les autres. Et je pense que c'est... Ouais, c'est une balance, ouais.
Et puis surtout, et en plus, c'est tellement vrai que lorsqu'on est trop, par exemple, accaparé par son clavier d'ordinateur, hop, le chat vient et marche sur la barre espace.
Il décide de tout, de l'heure à laquelle il faut aller se coucher, par exemple.
Mais ouais, c'est tellement vrai. Tellement
ça,
vrai.
Ça, c'est vrai, ouais.
Il y a beaucoup de... Je pense que tous ceux qui ont des chats vont se reconnaître dans ces passages-là. Est-ce que vous croyez à la réincarnation? Parce que ça, vous ne l'évoquez pas. Est-ce que vous pensez un jour votre âme revienne
en castor,
en animal?
Vous parlez de transhumanisme, en tout cas, enfin, pas dans celui-ci, mais...
C'est une question compliquée. Moi, je m'intéresse beaucoup à la spiritualité, à tout ce qui est autour. La réincarnation, je suis très 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 étonné de voir souvent quand je pense que ça vous est arrivé à tout le monde. Vous voyez quelqu'un et vous avez l'impression que vous l'avez vu, vous l'avez rencontré ailleurs, mais alors que c'est la première fois que vous le voyez. Et là, il se passe quelque chose, je pense, qui est au niveau de l'esprit, mais. Mais sinon, non. Honnêtement, je suis pas...
Enfin, Marc, vous savez que le sentiment de... Enfin, vous, que j'apprendrai que le sentiment de déjà-vu, y compris dans une situation, c'est-à-dire on est en train de vivre un moment et quelqu'un parle et on sait ce qu'il va dire et on a déjà ce sentiment de déjà-vu.
Ça s'appelle être marié, ça.
Non.
C'est avec Marine Le Pen, ça.
Non plus. Non. Vous l'avez jamais eu, ce sentiment-là.
C'est la fatigue, ça.
Vous discutez avec des personnes et vous avez déjà vécu cette scène-là. C'est simplement un décalage de l'irrigation du cerveau. C'est un coup de fatigue, en fait. Et qui fait que l'on vit une situation avec un léger décalage, comme un décalage satellite dans une communication. Mais c'est pas du tout un sentiment déjà vu. C'est juste un gros coup de fatigue.
Je dois être très fatigué, alors.
Comptez les moutons, Marc Duguin, avec alors le lapin pris à pic, il souffre quand même, lui, parce que autant la chatte est mise en valeur avec son intelligence, autant le lapin lui reçoit.
Ah ben le lapin, moi,
il est castré d'ailleurs.
Il a été, mais je l'ai castré, on l'a castré parce que c'était devenu insupportable.
Il voulait attraper tout le monde.
Oui. Bah c'était Weinstein, et d'autres. Et donc il y a un moment la castration, si vous voulez, ça rend service à tout le monde.
Mais oui, parce qu'il
y pense pour Nagui.
Ce qui est bizarre, c'est qu'à un autre moment du livre, vous dites, on est quand même les seuls à être sexuellement aussi obsédés, alors que les animaux, eux, c'est extrêmement simple.
Les hommes sont obsédés, pas les femmes, parce qu'ils précisent bien que
sais,
parce que dans le bouquin, Marc Duguin dit que les femmes,
mais qu'est-ce
elles elles se réjouissent que le sexe soit présent, mais du moment qu'il n'excède pas la taille d'un gourdin, ça leur suffit
simplement. Non, tu parles de la taille, moi. Oui, moi, je parlais de la fréquence.
Ah non, l'obsession sexuelle, Marc Dugain, vous allez nous le dire, c'est plutôt masculin, en tout cas dans le bouquin.
Bah oui, en règle générale, allez, oui, c'est un truc. C'est un truc très masculin et
mais
c'est
pas du tout. Je vais vous donner plein
de vous présenter des gens.
Chez les lapins, c'est pareil. Hein. C'est les mâles.
Oui, mais vous dites, mais encore une fois, vous dites que le comportement sexuel exagéré ou hypertrophié, ce que vous voulez en tout cas, de l'homme n'arrive pas chez l'animal. Or, votre lapin prouve l'inverse.
Oui, non, je vais vous expliquer. En fait, si vous voulez, la question, c'est que la sexualité masculine est très perméable à des problèmes psychologiques, en fait. Et je pense, moi, que le priapisme, ce qu'on a connu avec Strauss-Kahn, tout ça, c'est lié à des choses
psychologiques.
C'est très très souvent lié à des traumatismes.
Peut-être que votre lapin a eu des traumatismes psychologiques.
C'est l'anatomie, si vous voulez, qui fait que la pulsion sexuelle est en fait devient une pulsion de mort à un certain moment.
Et qu'il y a une surconsommation aussi des vidéos.
C'est très lié chez l'être humain.
Et qu'il y a une surconsommation des vidéos pornographiques chez l'homme aussi.
Alors oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce que on ne sait pas forcément. C'est que la plus grande consommation de sites sur Internet, c'est en fait des hommes qui regardent des choses par rapport à la longueur de leur sexe. Voilà. Et les femmes regardent des chatons. Donc vous voyez bien que en fait ça correspond pas tout à fait.
Fanny Ruet la première. Enfin tu regardes aussi la taille des sexes.
Oui, elle me touche devant les chatons.
Voilà, c'est ça. Oh.
Mais voilà. Les femmes s'en foutent de la taille du sexe des hommes. Il y a que les hommes qui sont omnubilés par ça. Et en fait la pornographie.
Enfin elles s'en foutent.
Qu'ils sont encore plus omnubilés parce que d'un seul coup ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup mieux qu'eux.
Elles s'en foutent pas les femmes. Arrêtez. Voilà. Mais non, elles s'en foutent pas.
Ça rassure de dire ça.
Si c'est totalement ridicule, elles s'en foutent pas. Et si c'est totalement gigantesque, elles s'en foutent pas non plus.
Non, voilà. C'est vrai. Non, mais
la taille.
Là, on est dans des statistiques, là. Hein. On parle de
normes.
De moyenne et de médian.
La Commission européenne a fait du mal avec le calibrage.
Je ne sais pas comment faire l'enchaînement et pourtant je vais devoir le faire. Il est énorme. Voici Tanguy Pastureau.
Bon les amis, ça a encore été une belle semaine de merde. D'actu. Déjà la campagne présidentielle intéresse moins les Français que les ceintures de chasteté et les chaudards de Mykonos. Un sondage révèle que seuls 66% d'entre nous comptent aller voter. Les deux tiers des pays du monde sont peuplés de gens qui crèvent d'envie de le faire. Et nous, on va mater Maison à vendre sur M6 à la place. Mmh. Alors qu'on devrait plutôt s'occuper de la maison à louer pour 5 ans qui est dans le 8e à Paris. C'est nous qui décidons de qui on envoie là-bas. C'est super quoi. C'est comme jouer au Playmobil avec des vrais gens. Qui on va y mettre? Macron et Brigitte? Le Pen et Fifi? Grisou? Poupouille? C'est chat? Mélenchon et son ego. Alors j'entends beaucoup la phrase « Oui, je me retrouve pas dans les candidats qui se présentent. » Ah bon, pourtant ils sont 12. Si tu es de gauche, il y en a 4. Si tu es de droite, il y en a 4. Si tu veux la révolution, il y en a 2. Si tu aimes les actions humanitaires, tu peux voter Hidalgo. Et si ton truc, c'est la grosse fiesta à sa mère, il y a Jean Lassalle. L'homme qui rentabilise le mieux au monde sa bouche, puisqu'avec il peut boire, souffler dans des sarbacanes à boules, chanter qui sait qu'a fait caca dans la bruyère et dire ce qui peut signifier aussi bien voter pour moi que les cocos, je suis Red Dev, je vais me coucher. Alors bien sûr, aucun candidat ne vous correspondra jamais à 100%, mais voter, c'est faire des compromis. C'est comme un conjoint. Si torse nu, il ressemble à Brad Pitt dans Fight Club, mais qui ronfle comme un vieux porc, il faut faire abstraction du bruit pour se focaliser sur les abdos. Enfin, je veux dire, tout le monde fait ça. Le mari de Maria Carré, si sur la période de Noël, il vit avec des boules caisses, il reste très amoureux. Hein. Non, mais quand chez Flunch, il y a 12 entrées, on crie de joie, mais on a 12 candidats et on fait la fine bouche. En fait, je crois qu'on est trop gâtés. Ah là là, mais quelle semaine nulle. À Paris, ça fait 3 jours qu'il pleut. 3 jours. Mais le pire, c'est pas ça. Ce sont vos potes qui disent sympa le temps pour un mois de novembre et qui se croit drôle, ces déchets-là. Et s'il n'y avait que la pluie? On s'en fout de la pluie, je suis breton, je suis né sous la pluie, j'ai grandi sous la pluie. Bah, toute cette eau n'a-t-elle pas généré la plus belle plante qui soit? Hein, ok, je prends ce manque d'enthousiasme comme un affront personnel. Non, le pire dans l'actu, c'est la guerre en Ukraine, ces cadavres ligotés, ces femmes violées, ces enfants assassinés pendant que nous, chaque jour, on continue d'acheter pour 800 millions d'euros par jour de gaz et de pétrole à Poutine. Même moi qui aime le confort, hein, j'ai un matelas et un surmatelas pour plus de moelleux. Pour sortir de mon lit, il faut une corde et des poulies. Même moi, ça me donne envie de faire du vélo et de vivre dans une hutte collective en regardant Zaz et Christophe Mali du groupe Trio faire l'amour sur une natte en osier avec 3 concombres bio. Alors, les fans de Poutine, parce que
Poutine a des fans. Hein, disent, ouais, là, il abuse, mais avant, c'était un mec comme ça. Ah bon, la guerre de Tchétchénie, 300 000 morts. La guerre en Géorgie, 1600 morts. Petit bilan. Pour Poutine, ça revient au bowling à foutre la boule dans la gouttière. Hein. La guerre du Donbass, 10 000 morts en 2014. Je parle pas de la Crimée ni de la Syrie par manque de temps. La liste des guerres qu'il a faites est plus longue que celle des filles à qui Leonardo DiCaprio un jour a montré sa bistouquette. Mais ces morts-là, on n'a pas voulu les voir. Ni nous, ni Mireille Mathieu, qui allait chanter à Moscou pour l'anniversaire de Poutine, ce qui est le dernier cadeau qu'on voudrait recevoir, sauf si on a perdu ses tympans. Ni François Fillon, ni Thierry Mariani, ni Jean Lassalle, que tout le monde prend pour Justin Bridoux en plus fun, mais qui en 2017 est allé serrer la pince de Bachar al-Assad en Syrie, quand même. Bah, Bachar aussi a le droit de faire des dîners de cons, quoi. Ni Depardieu, qui a un mois et demi encore posté sur son compte Instagram une photo de lui et Poutine avec écrit en légende l'amitié. Hein, aujourd'hui, le même, quand il chante Barbara sur scène, remplace les enfants de Göttingen par les enfants de Mariupol. Il force un peu, quand même. Enfin, on t'a vu, GG. Hein, lui, pendant la seconde guerre, il aurait peint sur un mur Abba Hitler, mais en 47, quoi. Le niveau retournement de baisse, on revient là à retourner toute la boutique de Vred avec l'équipe de vente. Non mais l'être humain est affligeant, on fait semblant de rien voir tout le temps au lieu d'agir. Prenez le GIEC, les types du climat, là, ils ont encore fait un rapport. Ils n'ont pas compris que l'ensemble des chefs d'État s'en tapent de leur papelard. À Macron, le GIEC, il pense que c'est une agence bancaire. Hein. Parfois, il dit à sa femme, ma tanche, si tu passes devant une tirette de la HSBC ou du GIEC, peux-tu me retirer 50 euros ou 5000 quoi. Mais ils continuent à nous avertir qu'on est foutus, ces cons-là. Là, ils ont écrit, c'est maintenant ou jamais. Selon eux, il faudrait qu'on agisse tous en même temps pour sauver le monde. Mais tous en même temps, ça exige juste dans les chansons d'Enrico Macias. Et encore, ce sont des gosses qui se tiennent la main avec la bouche en cœur. Alors, il faudrait, explique le GIEC, stopper tout de suite la moitié des émissions de gaz à effet de serre si on veut s'en sortir. Tout de suite. Donc, arrêter d'acheter du pétrole et du gaz à Poutine, mais aussi aux autres pays. Enfin, ça va, quoi. Si vous voulez avoir bien chaud partout dans le corps, écoutez deux, trois chansons d'Élodie Frégé. C'est suffisant. Oui. Non, mais le GIEC est clair. Il faudrait réduire de suite la consommation de viande et la place de la voiture individuelle. Donc, je le dis aux amateurs de viande, mangez des voitures. Une Twingo sauce au poivre, tu m'as gâté, Jocelyne. Donc, on résume, on a 3 ans pour sauver le monde, et là, on va élire quelqu'un pour 5 ans. Vous voyez que c'est peut-être pas si abstrait que ça, de mettre son bulletin dans l'urne. Donc, lisez les programmes, débrouillez-vous.
Merci, Tanguy Pastureau.
Tanguy Pastureau à Sausheim, c'est dans le Haut-Rhin, et c'est le 29 avril.
Oui. Comptez les moutons, Marc oui. Duguin. Est-ce que ce livre, vous, au-delà de vous raconter encore une fois par le prisme des sœurs Chocottes ou d'une des sœurs Chocottes, est-ce qu'il n'est pas aussi profondément politique ?
Oui, d'une certaine façon, parce que j'évoque des sujets politiques. Vous savez, aujourd'hui, moi, je vois trois grands sujets qu'on a pas mal abordés pendant l'émission, d'ailleurs. Le premier, c'est la crise climatique. Et là, je crois qu'on se rend pas compte à quel point ça va être terrifiant. Le problème, c'est que chez l'être humain, tant que les choses sont pas devant votre nez, on se dit, on verra. Et puis voilà, il y a des habitudes qui sont prises. Puis il y a des intérêts aussi qui font que les choses n'avancent pas. Parce qu'il y a des gens qui sont profondément... profondément conservateurs dans l'idée de leur profit, de leur façon d'aborder le monde. Et donc, moi, je suis pas très optimiste là-dessus. La deuxième chose, c'est évidemment la révolution numérique qui change complètement nos cerveaux et qui va de plus en plus vite, qui est exponentielle. Et la troisième, c'est la montée des régimes totalitaires. Et on voit très bien avec Poutine ce qui se passe. Après, il y a la question de la Chine. Et est-ce que la démocratie sera pas quelque chose de complètement désuet dans quelques années? Moi, ça, c'est des choses qui me font très peur. Parce que je suis assez vieux pour avoir été en contact avec ces générations qui étaient celles de mes parents et de mes grands-parents, qui étaient les générations et de la Shoah et de la Résistance. Et que, évidemment, moi, je vois ce nouveau monde qui se dessine avec au minimum de l'inquiétude et au pire de l'effroi. Voilà.
Parce qu'on ne pensait pas que ça puisse arriver à nouveau, ce qui se passe en ce moment.
Ben non, mais parce que, vous savez, c'est toujours pareil, c'est une question de vigilance. On est tellement matérialiste, on se grise tellement dans la consommation d'objets, on passe à côté de l'essentiel et on voit pas que pendant ce temps-là, il y a des gens qui s'en occupent de l'essentiel. Parce que quand nous on s'en occupe pas, il y a toujours quelqu'un pour dire attendez, bougez pas. Et des gens comme Poutine, il y en a pas qu'un. Mais d'ailleurs, c'est le scandale Orpea, c'est pas si loin de ça non plus. C'est-à-dire, voilà, on est dans son coin. pendant que vous, nous, on pense à autre chose, ben vous avez des gens qui font de l'argent sur des personnes âgées de façon absolument scandaleuse.
Vous parlez de Daesh aussi dans le bouquin.
Oui, je parle. Mais évidemment, je parle de Daesh, puis je parle du terrorisme parce que j'ai failli y passer dans un attentat terroriste. Ça s'est joué à quelques minutes, et donc bon, c'est évidemment quelque chose
de marquant
à laquelle je pense souvent.
Vous parlez de la création en fait. Vous parlez même de, parce qu'on parle de Poutine, mais on parle de l'ingérence de certains peuples sur d'autres. Et vous parlez
en l'occurrence de l'intervention des Américains, qui sont à la base, leur intervention a fait naître Daesh.
Oui, évidemment, parce que c'est toujours pareil. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui à l'américaine, c'est-à-dire il y a le bien, il y a le mal. L'Amérique c'est le bien, Poutine c'est le mal. Je pense que le mal, on le partage. Il y en a suffisamment. Notamment pour qu'il y en ait pour tout le monde, si vous voulez. Donc en fait, c'est vrai que quand j'étais en Irak, que j'ai vu la dévastation de ce pays sur une idée qui était un mensonge, qui était les armes de destruction massive qui n'existaient pas. C'est vrai qu'on se rend compte que finalement, des États comme les États-Unis, comme la Russie, mais comme nous, on est capable. Tout en ayant un certain discours, de se comporter de façon absolument effroyable.
Et de créer des monstres.
Et ça me travaille en permanence, parce que je le vois, puis je pense qu'il y a une question aussi de conscience et de conscience pour ceux qui viennent, le fait que moi j'ai des enfants, des petits-enfants, ce qui est le cas de millions de gens. Mais je me dis, mais dans quel monde ils vont vivre en fait? Et moi je suis né en 57, et j'ai eu quand même la belle vie. J'ai eu la belle vie parce que j'ai consommé comme un porc. j'ai fait toutes les conneries, parce que je suis pas en train de dire que c'est de la faute des autres.
Alors
j'ai participé
Marc,
à tout ça.
Marc, je suis obligé de vous arrêter. On peut pas dire j'ai consommé comme un porc. C'est méprisant pour le porc, alors que le porc est extrêmement propre. Que le porc ne surconsomme pas.
J'ai consommé ça, comme un humain. J'ai consommé
en
comme
abondance,
un humain.
Ouais, c'est ça, voilà.
J'ai consommé comme un humain, exactement. Ouais.
C'est ça. Avec ces humains qui deviennent, qui ne peuvent s'asseoir finalement que sur une fesse, tellement ils deviennent plus imposants que la chaise sur laquelle ils veulent s'asseoir.
Et pourtant, malgré ce discours, Marc Duguin, vous parlez de la sphère politique, des partis politiques comme une sorte d'univers auquel vous ne pourrez jamais adhérer.
Bah non, mais c'est. C'est toujours pareil. En fait, chacun chez soi.
Mais ça veut dire que vous allez voter ou pas dimanche?
Ah oui, moi je vais aller voter.
D'accord.
Oui, bien sûr, je vais voter. Bah, je peux pas vous avoir raconté ça pendant pendant une heure.
Bah si, parce que
je m'en fous. Moi.
Mais non, mais parce qu'après vous dites que vous ne croyez pas.
Je vais bouffer une de mes poules pendant ce temps-là. Et puis
non,
on
n'en
parle plus.
Mais après vous dites que vous ne croyez pas aux partis politiques. Donc je voulais savoir à quel point.
Non, mais ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que c'est un compromis en fait. Le problème de la démocratie, c'est que on voudrait toujours quelque chose qui soit dans la perfection, dans l'excellence, etc. Mais ça n'existe pas parce qu'on n'est pas comme ça. Donc forcément, c'est des compromis. Forcément, on se dit, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on ne vote plus pour quelqu'un, on vote contre quelque chose. Mmh. Et ça, je pense que on est à une étape qui est assez inquiétante pour la démocratie. C'est de se dire, de toute façon, évidemment, je serai au deuxième tour, ne serait-ce que pour que quelqu'un ne passe pas. Et au premier tour, je vais essayer de voter avec quelqu'un qui est à peu près pas trop loin de mes convictions.
Alors, sans rentrer dans le vote utile et tout ce débat autour du vote utile, en tout cas, il y a une démarche qui est récente, enfin qui est récente, non, pas, qui est pas récente, pardon, depuis pas mal de votes, c'est de voter pour le moins pire et pas forcément pour le meilleur.
Alors, si vous voulez, c'est un peu le problème. C'est comme disait, je crois, c'est Alain Duhamel, le commentateur. Il disait aujourd'hui, on n'a plus que des labradors. Avant, on avait des tigres. Maintenant, on n'a plus que des labradors. Donc, c'est vrai.
Encore les animaux.
C'est pas sympa pour les labradors.
Oui, ouais. Donc, on reste dans le bestiaire, hein, on est d'accord.
Non, mais là, quand on voit le vote par défaut, là, en ce moment, il y a une vague de mobilisation pour le vote pour, justement, pour Mélenchon, pour pas qu'au deuxième tour, il y ait Marine Le Pen. C'est juste pour faire barrage. C'est pas par choix de Jean-Luc Mélenchon. On en arrive là, évidemment.
Ça devient du calcul.
Oui, c'est du calcul, oui.
Mais C'est vrai que tout le monde rêve de se dire, tiens, il y a un candidat, mais c'est moi, je l'aime, j'ai envie de l'embrasser sur la bouche. C'est...
Mais on sauf se que, calme, Marc, on se calme. Vous êtes contagieux, je le rappelle. On se calme.
Vous aussi, vous aimez Jean Lassalle.
Ah, la
ça y est, vous m'avez débusqué. Vous savez pour qui je vais voter.
C'est comme c'est ce que Churchill disait à propos de la démocratie. C'est un mauvais système, mais c'est le moins pire des systèmes. Donc on en revient un peu à ce genre de tournure
il disait c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres.
C'est ça. Comptez les moutons, c'est chez Lattès, signé Marc Duguin. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour tous les fans de Marc Duguin qui ont découvert ce matin un ancien ado opposé à l'autorité, voilà, et un adulte qui fait plein de mauvais choix, un père de quatre enfants qui prône l'enfant unique, un homme complexe, un homme torturé, qui laisse son jardin à l'abandon, qui donne des croquettes à des mouflons écossais. Donc un homme a priori qui a le même dealer que Leïla. Désolé pour les futurs auteurs de la collection bestiale Marc Duguin, la clairement dit ce matin, raconter son rapport aux animaux, c'est du déjà vu. En revanche, avoir l'idée de laisser écrire son animal, ça, c'est de l'art. D'ailleurs, dès ce week-end, je vais donner mon stylo à Pinochet et Benito, mes perruches nazies. Et désolé pour Guy Lux, Guy Béard, Guy Bedos, Guy Yermoguiz, bref, tous les Guy décédés qui ont été humiliés, tambourinés par Tom Villa. Alors, c'est méchant et facile, hein. Fallait prendre un prénom moins con, les gars. Désolé, Guy Marchand. Désolé pour tous ceux qui ont été frustrés, voilà, par les animaux de légende oubliés dans le blind test bestial de début d'émission.
C'est vrai.
Alors on rattrape, hein. Là, les amoureux de poisse Sky, amoureux de danse de ah, musique super. Classique, évidemment. Et pour Leïla et ses amis zoophiles.
Non touchez la chasse.
Là-dessus, je vous souhaite un bon week-end.
Merci. Et d'ailleurs, elle s'appelle comment votre chatte,
Lady
Marc
Kate.
Lady Kate.
Lady Kate. C'est du danois, en fait.
C'est une, pardon?
C'est du danois.
C'est du danois. Voilà. Comptez les moutons chez Jean-Claude Lattès dans la collection bestiale, comme il a dit, avec l'écologie, la révolution numérique, le totalitarisme, mais aussi la surconsommation, mais aussi la place des femmes, mais aussi la place du respect dans notre société, et de se dire finalement que notre planète devient tellement petite qu'on va envahir d'autres planètes, histoire de les polluer, histoire de faire tous les stocks là-bas et de se dire maintenant tout est propre, on a tout nettoyé, on a toute notre mer sur Mars, on verra ce qui se passe. Et puis ce jeu de mots entre compter les moutons et se raconter à travers les moutons, avec quand même beaucoup d'humour et de bonne humeur aussi dans cet essai très touchant. Prenez soin de vous, Marc, s'il vous plaît.
Merci.
Et puis bonne chance.
Et revenez-nous vite dans ce studio. Passez une très bonne journée et un bon week-end. Merci Marc. Merci. Lundi, Julie Depardieu et Salomé Lelouch seront nos invités pour Snow Therapy, une pièce qui se joue au théâtre du Rond-Point. Passez un bon week-end et n'oubliez pas de faire ce que vous avez envie de faire un dimanche. Idéalement,
votez par exemple.